Question de cash. Question de cash. Question de cash.
Oh yeah! On va parler beaucoup de cash ce matin. On va revenir sur le budget, un budget éphémère. On aime ça au Québec parler d'éphémère. Oh, c'est un piano éphémère. C'est une pièce éphémère. Et là, c'est un budget éphémère. Un budget qui va s'en aller dans une caisse de recyclage comme les autres. Mais parlons-en quand même parce que c'est quand même des projections. Allez réécouter le More Live pose des projections assez saucées. Et ce que je retiens, c'est la ponction fiscale brutale chez les contribuables. Et j'imagine que Renaud Brassard de l'Institut économique de Montréal sera du même avis. Il est en studio. Comment ça va, M. Brassard?
Ça va mieux
qu'hier.
Est-ce
que vous êtes M. Brassard de Brassard?
Non, de Montréal, quand même.
Comme disait Gilles Proulx. OK, vous étiez là hier. Avez-vous eu le temps d'échanger quand même avec le ministre des Finances?
Non, généralement, on se concentre plus sur la lecture du budget.
C'est bon.
Je dois avouer, surtout avec le budget, là, quand on parle de la lecture du budget, on se concentre sur la lecture des 3-4 pages qui ont réellement des chiffres.
Allez-y, plongez et faites-nous voir votre angle à vous.
Ce qu'on voit essentiellement, c'est que c'est un genre de budget qui va satisfaire personne. Dans le sens où les syndicats sont pas contents, il n'y a pas vraiment plus de dépenses cette année.
Ils n'étaient pas contents avant qu'ils sachent c'était quoi le budget.
Effectivement, mais déjà, ils sont pas contents parce qu'il n'y a pas plus de dépenses cette année. Mais nous autres, on n'est pas contents parce qu'on regarde, écoutez, après 8 ans avec la CAQ au pouvoir, on a fait augmenter les dépenses de 63 milliards de dollars. Pour certaines personnes, c'est pas encore assez. Pour certaines personnes, c'est de l'austérité. Mais on va s'entendre, 63 milliards de dollars de plus, là, dépenser 170 milliards de dollars comme on s'apprête à faire cette année, avec 8,6 milliards qui s'en va sur la carte de crédit, sur la dette. Clairement que c'est pas un budget qui est sobre, c'est pas un budget qui est responsable. Et ce, malgré tout ce que le ministre des Finances essaie de nous faire passer par rapport à ça.
La sobriété, là, elle est où?
La sobriété, là, dans le sens...
J'ai vu un chiffre, le chiffre qui me fait le plus peur, je l'ai dit en onde, 8 milliards de plus de ponctions fiscales chez les individus, je parle pas de taxes, je parle d'impôts des particuliers, entre maintenant et 2030, 8 milliards de plus. Moi, j'appelle pas ça de la sobriété, j'appelle ça de la violence.
C'est sûr que c'est beaucoup, puis au moins la bonne nouvelle là-dessus, c'est qu'il n'y a pas une augmentation d'impôts qui vient avec ça. Ce 8 milliards-là, ils s'attendent à l'avoir parce qu'ils s'attendent à ce que l'économie du Québec croisse suffisamment puis qu'on ait soudainement plus d'argent pour envoyer à Québec.
La magie!
Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on devrait avoir aussi de l'espace pour couper au niveau des impôts, pour couper au niveau des taxes, pour couper au niveau des taxes de spécifiques comme sur l'essence. Parce qu'au final, c'est un peu ça le problème du gouvernement du Québec. On nous dit que, écoutez, on n'a pas de ressources pour dépenser. Écoutez, on vient de dépenser 63 milliards de plus cette année que ce qu'on dépensait il y a 8 ans. Le gouvernement du Québec a beaucoup de revenus additionnels. Le problème, c'est que toutes ces dépenses-là additionnelles, elles ne se traduisent pas en meilleurs services. Elles ne se traduisent pas en meilleures infrastructures. Elles ne se traduisent pas non plus en, des nouveaux services. Ça se traduit en plus de fonctionnaires, plus de paye pour les fonctionnaires, puis au final, moins d'argent dans les poches de tout le monde qui écoute. Là.
Vous avez des tableaux, des feuilles devant vous. Qu'est-ce que vous retenez? Faites-nous peur. Là. Nous autres, ça ne nous fait pas peur, là. Des films d'épouvante. Il y a des choses là-dedans qui sont fréquentes pour les familles.
Pour moi, le plus inquiétant, en fait, c'est quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'équilibre budgétaire. Parce que le ministre nous dit, écoutez, faites-moi confiance, ça va être équilibré en 2030. Le problème, c'est quand on regarde son plan, là,
c'est ça.
Il dit que ça va être équilibré en 2030, mais il dit aussi, il y a un 2 milliards, je ne sais pas comment je vais le trouver, je ne sais pas où je vais le trouver, mais je vais le trouver, faites-moi confiance d'ici 2030.
Poudre de perlimpinpin.
Mais c'est ça, c'est sûr que c'est plus facile d'équilibrer un budget quand on tire des chiffres d'un chapeau, mais ça ne fait pas un budget sérieux, ça ne fait pas un plan sérieux. Puis, de toute façon, même si je faisais confiance au ministre pour trouver ce 2 milliards-là, puis déjà, ce n'est pas le cas, là, même s'il y a ça, on a une période électorale entre-temps. Je dois avouer que des politiciens qui se retiennent de dépenser en période électorale, je n'ai jamais vu ça.
La dette. Pouvez-vous élaborer sur la dette?
Bien, on s'enligne pour dépasser un cap inquiétant. Là, on a regardé à l'UEDM, nous, ce qu'on regarde, c'est pas la dette nette que le gouvernement aime bien prendre qui enlève plein d'affaires de compte. Ce qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle la dette du secteur public. Ça inclut essentiellement toute la dette pour laquelle le gouvernement du Québec est responsable. Donc, on parle de la dette d'hydro, on parle de la dette des municipalités, on parle de tout ça où le gouvernement du Québec se dit «
Le chiffre que Dom Dumas nous a sorti tantôt, il faut que tu inclues les villes là-dedans.
Exact.
Les villes font des dettes. Les villes ne peuvent pas faire de déficit, mais les villes peuvent faire de la dette, c'est-à-dire mettre des... Quand on dit de la dette, c'est pas nécessairement toujours de la mauvaise dette en passant. Il y a des immobilisations que nécessairement on va mettre sur une dette. Mais si on combine l'indice, l'indice combiné, ça donne quoi?
Si on combine tout ça, on s'enligne pour arriver un tout petit peu en dessous de 400 milliards pour cette dette combinée d'ici la fin de l'année. Je veux dire, 400 milliards, il faut quand même réaliser, on est un peu plus que 40 000 piastres par Québécois avec ça. C'est énormément d'argent. Un peu plus que 40 000 piastres.
Le petit bébé qui vient au monde un matin au bout de la rue, au CHUL, lui, il a une dette dans le front. Là.
Exactement, il commence à vivre avec 40 000 en dette.
Et là, on ne parlait pas du fédéral en passant. Là.
Ben non, le fédéral, il faut l'ajouter à ça. C'est ça qui est inquiétant. Et c'est un peu aussi le problème, c'est quand Québec et Ottawa nous parlent de la dette, chacun nous dit, écoutez, nous, notre part de la dette est sous contrôle. Le problème, c'est que le contribuable qui paye cette dette-là, là, il y en a juste un. C'est pas un contribuable différent qui paye à Ottawa puis le contribuable différent qui paye à Québec. Si je peux faire une analogie, là, vraiment, la façon dont on parle de cette dette-là, la façon dont le gouvernement nous parle de cette dette-là, c'est de dire, écoutez, mon compte des Visa, je suis en mesure de le payer.
C'est ça.
Puis le fédéral dit, mon compte de Mastercard, je suis en mesure de le payer. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand les deux arrivent, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est capable de le payer.
Les services de la dette. Pour vous me parler, je l'avais sorti ici. Le service de la dette, êtes-vous à mesure de...
Absolument, de... Oui. Absolument. Ça va nous
de coûter... m'en parler, je n'ai pas eu le temps d'en parler ce matin.
Ça va nous coûter 10,3 milliards cette année. C'est beaucoup d'argent.
Ça augmente, oui, je l'ai ici, 10,2 milliards. Oui, c'est ça, je l'ai ici, la page, c'est une hausse de 485 millions du service de la dette. Peut-être expliquer aux gens c'est quoi le service de la dette.
Ben, essentiellement, c'est des frais d'intérêt. De la même façon
paiement
que...
minimum sur la carte.
Oui.
Grosso modo.
Oui, oui, exact.
Tu payes un petit peu de capital, là, ça vise là.
Exactement, mais c'est un peu ça. C'est le montant qu'on doit payer pour que la dette reste au même niveau. Essentiellement, c'est ça. Premièrement, la dette ne va pas rester au même niveau. On sait qu'elle va monter. Ça, c'est déjà le projet du gouvernement. C'est ce qu'il voit. Malgré cette sobriété, on va quand même empiler des milliards de dollars de nouvelles dettes. Mais ce service de la dette-là, là, juste pour donner une idée, quand je parle de 10 milliards, qu'est-ce que ça coûte? Les CPA, ça coûte moins de 10 milliards. Essentiellement, là, tu prends tout l'argent qu'on dépense pour le ministère des Familles, pour les CPE, tout ça. C'est moins d'argent que ce qu'on dépense simplement pour garder la carte de crédit aussi loadée qu'elle l'est déjà. Ça reste inquiétant.
Ça n'a jamais été aussi élevé, les frais de carte de crédit.
Ça n'a jamais été aussi élevé
pour l'État québécois. 10,2 milliards de dollars qu'on donne en taux d'intérêt à long terme à l'échelle mondiale. Plus élevé que prévu. Donc, c'est de l'intérêt que tu donnes à quelqu'un qui a acheté des obligations, entre autres.
Oui, exact. En fait, c'est quelqu'un qui a acheté des obligations
qui ont été
émises.
Et à ce moment-là, quand elles sont rachetées, tu payes, évidemment, tu compenses parce que la personne t'a prêté de l'argent sous forme d'obligation. Mais c'est 10 milliards.
Mais c'est 10 milliards, mais ça va monter. D'ici la fin du cycle budgétaire, là, d'ici à ce que le budget soit équilibré, ils s'attendent à ce que ça monte à 11,6 milliards.
Ça, c'est dans le document d'hier?
C'est dans le document d'hier. Puis essentiellement, il faut se rappeler, là, encore une fois, c'est 11,6 milliards-là qu'on
ça
va payer.
Ça ne donne rien de plus. Là.
Mais non, on n'a pas de service, on n'a pas de baisse d'impôts, on n'a pas quoi que ce soit. On paye juste pour des excès du passé.
Peux-vous parler un petit peu du tramway? On a une bebelle ici qui amuse beaucoup notre mangeur de muffins qui était en Alberta et qui lui dit « Ah, donc, c'est planifié, c'est planifié. » On donne 300 millions à un projet qui n'est pas planifié. Même le soleil qui est en faveur du tramway, rappelons-le, écrit « La planification gouvernementale le place au même stade d'avancement que le troisième lien, c'est-à-dire que vous avez deux projets dont les détails restent à définir. » Autrement dit, c'est un projet qui n'existe pas de l'aveu même du gouvernement dans les documents budgétaires. Mais on donne 300 millions pareil pour fermer la boîte au mangeur de muffins et... à son fan club.
C'est un projet pour lequel on n'a pas l'argent. Puis là, je veux dire, je parle du déficit et tout ça. L'autre affaire qui est inquiétante, je sais, c'est qu'on regarde là, tout ce qu'on appelle le PQI, essentiellement tout ce qu'ils vont dépenser en infrastructure pour les 10 prochaines années, du moins ce qu'ils prévoient dépenser, on voit qu'il y a une grosse augmentation des dépenses pour ce qu'on appelle le maintien des actifs. Essentiellement,
la bonne dépense? Moi, je pense que oui,
le
dans
maintien,
certains
absolument.
Égards.
Le maintien,
c'est-à-dire
c'est ce qu'on
réparer des hôpitaux, des salles d'urgence et tout. Même s'il n'y a rien de tangible pour reconstruire Maisonneuve-Rosemont à Montréal.
Non, il y a rien.
Mais il y a de l'argent donné, entre autres, pour l'hôpital de Drummond, je pense, etc. Mais des dépenses qui peuvent être révisées aussi. Ça, c'est dans une planif. Mais le bulldozer n'est pas arrivé. Là.
Mais ce qui est inquiétant, là-dedans, c'est qu'on regarde là, tout ce qui est dépensé en maintien, justement, pour faire ces rénovations-là, pour taper nos infrastructures. malgré l'augmentation des dépenses là-dedans,
oui.
ce qu'on appelle le déficit de maintien, essentiellement le montant à dépenser pour remettre nos infrastructures à un niveau correct. Là,
c'est pas
là je parle pas des routes pavées en or, je parle juste des routes qui sont pas pleines de cracks et de nids de poules. Ce montant-là augmente pareil. Il augmente plus rapidement que notre capacité à dépenser. Fait que d'un côté,
on se fait dépasser sa route, autrement dit.
Ben oui, mais et d'un côté, je veux dire, on a un déficit qui est énorme, qui est pas sous contrôle, avec un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui essentiellement dépend de beaucoup d'espoir. Et d'un autre côté, on a justement nos infrastructures qui tombent en ruine, puis le fait qu'on n'est pas en mesure de dépenser, d'augmenter l'argent qu'on dédie à ça suffisamment rapidement pour ne plus qu'elle tombe en ruine.
C'est quoi votre plan budgétaire à vous, à l'Institut économique de Montréal?
Bien, nous, ce qu'on aurait aimé voir déjà, au niveau des infrastructures, ça, c'est une proposition que mon collègue Gabriel avait faite.
Oui, il y a Gabriel Giguère, avec qui on jase de temps en temps.
Exact, il avait fait ça il y a une couple de mois. Ce qu'il propose, c'est au niveau des infrastructures, d'adopter un peu ce que la France a fait. C'est rare que je vais dire que la France est un exemple, mais ils ont fait un modèle de concession. Donc, ils ont dit, écoutez, le gouvernement n'est pas en mesure de s'occuper de tous ses actifs, il n'est pas en mesure de s'occuper de ses infrastructures. Puis on voit c'est quoi au Québec, il n'est clairement pas en mesure de s'occuper de ses infrastructures. Mais il y a certaines affaires qu'on va céder au privé. Et le privé va s'en occuper. Le privé va être en mesure de faire de s'occuper des infrastructures, de faire les rénovations nécessaires, de garder ça en ordre. Puis au moins, donc d'un côté, on réduit la pression sur les finances publiques. Une fois que c'est le privé qui a l'infrastructure, c'est plus le gouvernement du Québec qui est en charge de payer ces dépenses-là. Fait qu'on réduit d'un côté la pression, mais on essaie aussi avec ça d'avoir des infrastructures qui sont en meilleur état. Puis on le voit, on a deux exemples au Québec, là, le pont de la 25 puis le pont de la 30 dans le coin de Montréal. Quand le pont de la 30 a été fait, le privé a repris une partie de l'autoroute 30 qui appartenait au gouvernement du Québec, qui était en mauvais état. Mais dans le cadre du deal, ils se sont fait dire, écoutez, si vous voulez opérer cette infrastructure-là, prenez cette partie-là aussi, occupez-vous de l'entretien, remettez-la à niveau. Mais depuis ce temps-là, c'est un beau segment d'autoroute.
Et ils vont avec du payage pour l'entretenir à ce moment-là? À quelle
oui.
place ils prennent l'argent?
Ils vont sur du péage, sur le nouveau pont qui a été bâti.
Oui.
Mais c'est ce genre de choses-là qui fait en sorte qu'à un moment donné, quand on regarde, là, présentement, avec le modèle québécois, on s'en va dans le mur. Il y a certaines affaires qu'il faut qu'on tasse des mains du gouvernement si on veut que ça fonctionne.
Puis je pense ils font le contraire. Les garderies. 5 000 places subventionnées en garderie. Donc, ils ont confirmé qu'ils vont convertir 5 000 places de garderie privée en subventionnées.
Ben oui.
Ils vont à l'envers de ce que vous préconisez.
Malheureusement, c'est un peu ça la trajectoire budgétaire qu'on observe. L'autre affaire aussi qu'on recommande, c'est de regarder au niveau des fonctionnaires. Puis là-dessus, je dois le dire, tout le crédit va à la ministre Duranceau. Cette année, on a réellement vu une diminution du nombre de fonctionnaires. On a vu une augmentation du nombre d'employés de l'État. Ça, il faut quand même le noter. Il y a à peu près 3 000 personnes de plus qui travaillent pour le gouvernement du Québec. C'est mieux
donc,
que ce qu'il y
avait autrefois. Pourquoi elle a fait une bonne job si ça a augmenté?
Pourquoi elle a fait une bonne job? Parce que c'est la première fois depuis longtemps que je vois qu'il y a moins de monde dans les ministères. Quand on regarde les 3 000 employés de plus, là, on regarde les catégories, c'est des infirmières et c'est des enseignants. C'est à peu près tout. Fait que c'est pas d'autres fonctionnaires pour écrire des rapports à d'autres fonctionnaires qui vont écrire des rapports à des cadres qui ne liront jamais. Fait que ça, là-dessus, c'est un pas dans la bonne direction. Le problème, c'est que ce pas-là, il arrive 8 ans trop tard.
On va jouer pour la fin, Magali, dans la yes. zone orange, dans les clés.
J'ai peur.
Parce qu'au final, ce sont les fonctionnaires qui ont raison, et surtout les syndicats qui ont raison. Donc, Sainte Maga, qui était avec Filion hier à RDI. On écoute ce qu'elle avait à dire.
Vous savez, là, je viens de la fonction publique fédérale.
Oui.
Je suis tanné qu'on casse du sucre sur l'État et les fonctionnaires.
Il n'y a pas de ménage à faire d'efficience à trouver.
Il y a eu des années, je vous dirais, il y a peut-être 25-30 ans, là, il y avait peut-être un peu de gras dans l'État, là, mais là, on parle de la moelle. Là. Il y en a plus. Regardez partout au niveau du gouvernement, les programmes. On a besoin de nos programmes sociaux comme jamais. On a besoin d'avoir des services publics de qualité. Quand on nous parle de coupes, c'était drôle, c'était tout à fait paradoxal d'entendre. On va être meilleur, on va donner meilleurs services en santé, même en même temps, on est en train de couper du monde. T'sais. C'est difficile de comprendre la stratégie. Moi, je pense que l'État laisse de l'argent de côté. Il faut vraiment regarder, pas seulement sur nos dépenses, mais où on va chercher l'argent. Ça va prendre des décisions qui ne seront pas faciles,
ouais.
mais c'est ce qu'on s'attend d'un gouvernement.
Alors voilà, le charabia de Sainte-Maga.
Mais déjà, aucun lien avec les chiffres qu'on voit. Je veux dire, sous Legault, là, on est passé d'un peu moins de 500 000 employés de l'État à plus de 600 000 aujourd'hui.
Voilà.
Quand la moitié des jobs créés depuis 2019, en fait, plus que la moitié, excusez-moi, 55 % des jobs créés au Québec depuis 2019, c'est dans le gouvernement. Je veux dire, cette idée que
c'est
on a coupé jusqu'à la moelle, excusez-moi, là, mais la moelle est encore bien, bien loin. Là.
Voilà.
On est en première couche de gras.
Merci beaucoup d'être passé.
Toujours un
merci
plaisir.
Merci beaucoup. Il va falloir se trouver un timing, les boys, ce matin. Je sais que Renaud a vraiment fait un coup de circuit hier en sortant scoop vers la fin de sa chronique le midi. On va essayer de se trouver un trou ce matin. Dom a tout ça, les extraits de Renaud concernant le tramway. parce qu'on parle de dépenses publiques. C'est très, très gros ce que Renault a sorti hier. Pas de soumissionnaire, même si l'appel d'offres a duré des mois et des mois. Pas de soumissionnaire pour s'occuper de la santé et sécurité du chantier du tramway. Donc, il n'y a pas un chrétien d'ingénieur, il n'y a pas une firme d'ingénierie qui a mis son nom sur la feuille. Pourquoi vous pensez? Parce que c'est napkinien, parce que ça n'existe pas. C'est un projet cosmique, mais le mangeux de Moffin et son fan club prétendent le contraire. Donc, qui croire? On revient dans Morin Live.
Morin.
Y'all ready for this?
Live.
Les meilleurs au monde.
On revient dans pas long.
Live.
Radio X.